Et on va passer au troisième jour. On a toujours le problème de l'eau. Et cette fois-ci, les eaux d'en bas. Vayomer Eloki, ikavu amaim. Le Midrash va s'occuper du pasuk dans lequel Elohim a donné l'ordre à l'eau, aux eaux de se rassembler en un lieu précis, disons à l'océan, pour dévoiler une terre sèche qui va devenir la terre. Par opposition à la mer. Alors, le Midrash commence par un pasouk de Tehilim. Min garatcha yenusun, min kol begomer, donc, il dit ici, garatcha, c'est-à-dire le grondement de Kadosh Baruch Hu, bien sûr, les eaux ont tellement peur qu'elles se sauvent. Yenusun, elles se sauvent, elles fuient. Min kol, de la voix de ton rugissement, elles s'empressent, c'est-à-dire. Donc en fait, le pasouk dit que Akadosh Baruch Hu a parlé, mais il a parlé de façon à, on peut presque dire, effrayer les eaux, pour les obliger à se rassembler. Elles occupaient la totalité, pour les obliger à se rassembler en un lieu précis. Il leur a crié dessus pour les empêcher de s'étendre, pour les amener là où ils veulent les amener. Abrechia b'shem Rabbi Abba Bar Ami Amar, il a dit, Yase mida la maim. Il faut faire une mesure pour les eaux. C'est-à-dire qu'il faut les limiter, il faut les faire entrer dans une mesure. L'eau, c'est justement ce qui ne prend pas de mesure. Ça s'étend. Et donc, il faut les mettre dans quelque chose de mesurable, en fait, si on parlait comme ça. Le mettre dans des limites. Vers ma de Atamar, vekavinate al Yerushalayim. Et il faut l'entendre ici, comme on entend un pasouk qui a été dit par le Navi Zecharia, qui parle donc d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu dit Vekav yenate al Yerushalayim. C'est un verset qui dit je suis. Bon, il y a un début, c'est seulement une partie du texte qui est dit là. En vérité, dans la traduction française, vous avez la totalité du verset. Bon, traduit, comme ils ont traduit. C'est Hachem qui parle. Je suis revenu à Yerushalayim avec tendresse. Ma maison y sera rebâtie et le fil à mesurer sera tendu sur Yerushalayim. Alors, le travail du Midrash va être sur ce mot de Ikavu. Dans Ikavu, il y a la même racine que dans Mikvé. Un Mikvé, c'est une retenue d'eau. Donc, Ikavu, Amaim, c'est-à-dire que les eaux soit limité dans une retenue particulière, l'océan par exemple. Et donc le Midrash, pour dire quelque chose de cette mesure qu'on va imposer à l'eau, comme on a dit, il faut mettre une mesure, il y a assez mida, la maïm. Il parle, il prend l'image de, d'un kav. Kav, c'est une ligne. Kav. Aujourd'hui, un kav, c'est une ligne d'autobus, par exemple. En Eretz Israël, quand vous demandez quelle ligne d'autobus il faut prendre, Ezekav. Mais c'est un fil, en principe, qui entre autres, sert à quand on parle du cave d'un autobus, c'est la ligne que va suivre l'autobus. Donc, c'est une certaine ligne qui va délimiter les eaux. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on construise son palais, il a lui aussi donné des mesures à ce palais. Des mesures qui sont étonnantes, qui ont étonné Moshe Rabbeinu. Quand Hachem lui a donné les mesures, Moshe Rabbeinu a dit, mais comment tu veux que je construise ta résidence? Les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, comment est-ce que moi je pourrais construire une résidence pour toi? Du coup, Hachem lui a dit, tu fais avec ce que je te dis, et moi je me débrouille pour résider là-bas. Donc on dit ici, on va de nouveau utiliser le cave pour délimiter, donc pour construire Yerushalayim. Yerushalayim a été complètement détruite. Vous savez, après la première destruction, on a passé la charrue, on a complètement tout écrasé. Il n'y avait plus aucune structure, si vous voulez, visible de Yerushalayim. Et donc maintenant, si on veut reconstruire, il faut utiliser le fil. Enfin, il va falloir tracer des lignes sur cette terre pour attribuer tel et tel endroit, tel et tel bâtiment, enfin tel et tel, je sais pas, pour un ministère, pour un palais, pour des écoles, pour le Beit HaMidrash, etc. Et donc là, on prend cette idée en quelque sorte. C'est même curieux, si vous parlez comme ça, de prendre l'idée de la construction de Yerushalayim pour donner une idée de la limitation des eaux pour faire apparaître la terre sèche. Rabbi Abba Bar Kahana, Hashem Rab Levi Amar Kadosh Baruch Hu, Ikavu Li Amaim, Ma She'ani Atid La'asot Bahem. Donc ici, Hashem dit que les eaux, en fait. Ce mot de Ikavu Amaim, on a vu pour l'instant l'utilisation de la racine Kav dans Ikavu. Maintenant, on peut aussi utiliser Ikavu comme la marque de « Ayez confiance en moi », l'espoir, la tikva, l'espoir. « Kavuli amaim, rachani asid, atid la asod bahem. » Quand je beaucoup dis, en fait, qu'elles espèrent en moi, ces eaux espèrent en moi, j'amènerai par elles un jour, qu'est-ce qui va amener par ses eaux? Hashani atid la asod bahem. Qu'elles aient confiance en moi, je ferai par elles, je les utiliserai, ces eaux, pour faire quelque chose. Dans le futur, je vais les utiliser. On ne dit pas pourquoi il va les utiliser. Machal le Melech, Shebana Palterin. Alors, on donne un machal pour qu'on comprenne un peu mieux. Un roi a construit un palais. Oshiv betocha illemim, et il a installé dans ce palais des sourds-muets. Et les sourds-muets en question, Fayou mashkimim shoalim bishlomo shel melech birimiza ou be'etzba ou manoulin. Et ces sourds-muets, le matin, ils honoraient le roi, ils saluaient le roi tous les matins. Alors comment ils pouvaient faire? Ils ne pouvaient pas parler. Mais ils faisaient des signes avec leurs doigts, avec les mouchoirs. Amar HaMelech, le roi a dit, Iloyou Pikrin, si ces sourds-muets pouvaient parler, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison qu'ils m'honoreraient, puisque déjà ceux-là qui ne peuvent pas m'honorer autrement, ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire. Enfin, ils m'honorent avec leur corps et avec des mouchoirs. Si les gens pouvaient parler, alors c'est ce qu'il a fait. Il a mis les habitants qui, eux, étaient susceptibles de parler. Ils se sont levés et ils ont pris le pouvoir sur le palais. Amrou, en palatinzu shel melech, shel anoui. Ce palais n'est pas à nous, n'est pas au roi, il est à nous. Amar HaMelech, Tarzor Palatin le Kemo Shehaita. Le roi a dit, ok, que le palais revienne à ce qu'il était. Kach, ainsi en est-il, Mitrilat Briato Shel Olam. Depuis la création du monde, depuis le début de la création du monde, lo haya kiluso shel HaKadosh Baruch Hu ole ela min ha-mayim. La louange d'Hachem, au début, ne venait que des eaux. Il n'y avait que ça, d'ailleurs. Elle ne venait que des eaux. Comme c'est marqué dans le pasouk, mikolot mayim rabim, des voix des eaux. Donc, de ces des eaux nombreuses, adirim, des eaux qui sont aussi impressionnantes, mishbereyam, qui brise la mer, en fait. Mayu omrim. Qu'est-ce qu'elle disait, ces eaux? Adir Bamarom Hashem. Elle proclamait ces eaux. Elle disait Adir. C'est le singulier de Maim Adirim. Mais Adir Bamarom, ça veut dire il est splendide dans les hauteurs, Hashem. Amar HaKadosh Baruch Hu. Maïm elu shein laem lo pe velo amira velo dibur varen mekalsinoti. Ces eaux-là, celles-là, qui n'ont ni bouche, ni parole douce, ni parole dure, elles disent, elles me louent ainsi que chez Evra, Adam. Quand je créerai l'homme, alachat kama vekama, À plus forte raison, l'homme, lui, pourra dire ma louange. Et alors maintenant, on continue un peu sur le modèle du machal. Amador Amaboul ou Maradbo. La génération du déluge s'est levée littéralement, elle s'est révoltée contre Hachem. Amador Enoch ou Maradbo. Idem, la génération d'Enoch. Dora Palaga ou Maradbo. La génération de la tour de Babel, idem. Amara Kadosh Baruch Hu, Ifanu Elu, Veyamdu, Veyavu, Otan, Shiyashvu, Baem, Mikodem. Qu'on évacue cela et que reviennent celles qui étaient là avant. Daudirtiv, c'est ce qui est écrit. Vaihi a geshem alors à la haaretz, arbaim yom ve arbaim laila. Il a plu sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est le Maboul, c'est le déluge. OK? Voilà le. Voilà le Midrash. Alors, comme toujours, on va commencer plutôt par la fin. On va essayer de voir ce qu'on peut en dire. Et ce qui vient à la fin, c'est donc le problème standard, habituel. C'est quoi la différence entre le machal et ce dont il est le machal? Est-ce que la différence entre cette histoire avec le roi et les muets, les sourds-muets, remplacés par des humains qui parlent, d'un côté, et la situation dont, dans laquelle on est au moment de, disons, au moment de la création du monde, Mitrilat Briato chez l'Olam, depuis le début de la création. Il y avait des eaux, il y avait de l'eau. Et les eaux sont réputées dire la louange d'Hachem. Et alors Hachem a pensé que quand je remplacerai les eaux par les hommes, c'est-à-dire par des êtres parlants, eh bien ils pourront dire encore mieux ma louange. Or, ce n'est pas passé comme ça du tout. Trois fameuses générations, là, qui sont les générations qui ont été, elles ont en commun d'être toutes détruites par l'eau. C'est-à-dire, lorsque Hachem décide qu'il faut remettre les choses en l'état, alors, dans le machal, simplement, dans le machal, c'est marqué simplement que le roi a dit, simplement, il a dit, Amar Ameler, Tarzor Palatin, le Komoshaïta. Retour à la situation antérieure. On revient à la situation première. Et ici, Hachem dit, en fait, il l'a dit au tout début du Midrash. Rosh Baruch Hu a dit, Ikavu Amaim, on avait vu D'abord, vous vous souvenez, on a vu d'abord Kav, de Ikavu Kav, la ligne. Et puis ensuite, on a eu le Ikavu, l'espoir, en fait. Ikavu li amaim ma she'ani atid la'asot bahem. C'est quand même étrange. C'est que à la création du monde, Kadosh Baruch Hu dit aux eaux, à l'eau, que l'eau fasse confiance, qu'il espère en moi, parce que par elle, je vais amener le déluge, enfin, le déluge et les tsunamis et la tour de Babel, la destruction de la tour de Babel. La destruction, elle vient par l'eau, mais elle vient par une eau bien spéciale. Elle vient par l'eau qui s'appelle Geshem. Par la pluie, elle vient. Donc, a priori, la pluie, elle vient des eaux d'en haut, quoi, quelque part. Elle vient d'en haut. Ça veut dire que peut-être qu'il faut l'inscrire dans la discussion dont on a déjà parlé, que les eaux d'en bas n'étaient pas contentes du tout de devenir les eaux d'en bas. Quand Hachem a créé le Rakia et qu'il a fabriqué les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les eaux d'en bas ont dit « mais nous, on veut être proche d'Hachem ». Dire je veux être proche d'Hachem, ça pourrait se dire nous on veut pouvoir dire la louange d'Hachem. Pourquoi ce serait seulement les eaux d'en haut qui seraient proches d'Hachem? Pourquoi est-ce que nous ne dirions pas nous aussi les louanges d'Hachem? Hachem leur a dit c'est dans d'autres midrashim, mais Hachem leur a dit que ces eaux, elles vont avoir une fonction très importante puisque elles vont se fendre pour permettre la sortie d'Égypte. Et ici, les eaux d'en bas, ici c'est pas très très clair. De quelles eaux s'agit-il ici dans... A priori on parle que des eaux d'en bas, c'est clair. Mais c'est quoi l'idée quand Hachem parle des maïm adirim, des kolot maïm rabim adirim mishbereyam? Et ces eaux-là, qui sont les eaux d'en bas, a priori. Maïmadirim, Mishbereyam, ces eaux qui brisent, c'est les eaux, c'est-à-dire c'est les vagues, probablement, qui cassent la mer, il y a des hautes vagues, etc. On a l'impression que c'est cassé, là, il y a des brisures, en quelque sorte. Et elles disent Adir Bamarom. Elles disent, il est splendide, magnifique, va marom, en haut, tout en haut, Hachem. Ça veut dire quoi? elles reconnaissent que Hachem est bien plus haut. Elles reconnaissent la singularité d'Hachem, si on peut parler comme ça. Adir Bamaro. Dans le Machal, les hommes parlants, donc ceux qui ont remplacé les sourds-muets, ils prennent le pouvoir et ils disent « Le palais est à nous, il n'est pas au roi. » Si je vais dans le Nimshal ici, si maintenant je vais dans les arguments des générations du déluge, de Enoch et de la tour de Babel, alors il faut l'interpréter un peu dans le sens de la parabole en question. Dans la parabole, ils disent le palais est à nous. On parle simplement, ils disent le palais est à nous, point barre. On n'entre pas dans le détail. Tandis que dans la réalité, on entre dans le détail. Il y a la génération du déluge, celle d'Enoch et celle de la tour de Babel, c'est pas les mêmes problèmes, c'est pas trois fois le même problème. La génération de la tour de Babel, on parle pas de leurs mœurs. On parle d'une volonté de fabriquer du un et de se faire un nom. C'est l'Anouchem. La génération d'Enoch, c'est la génération au cours de laquelle on a commencé à pratiquer une forme d'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on a donné le nom d'Hachem à toutes sortes de choses. C'est une forme de panthéisme ou quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire, en fait, il y avait une multitude de divinités. Tout était quasiment divinité. Finalement, il y avait la divinité, elle était dans le monde. Et la génération du déluge, ce qu'on en connaît, ce qu'on sait, c'est que leurs mœurs étaient complètement pourries. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient aucune loi. Ils ne connaissent pas les lois. Donc, si vous voulez, vous avez d'abord, on peut dire, une contestation de l'ordre d'Hachem dans le monde. Deuxièmement, vous avez une volonté d'unifier en quelque sorte, c'est-à-dire de faire en sorte que le divin est dans le monde. C'est une immanence. Et la troisième, la génération de... Ils ont compris qu'il fallait fabriquer du un, mais ils pensent que c'est nous, le peuple. On peut fabriquer du un à notre niveau. Téléphone ? Oui, il faut bien boire quelque chose. Citron. Ouais. Ils ont dit, tout le monde va parler la même langue. Tout le monde va participer à la construction de cette tour. C'est-à-dire qu'en fait, on va fabriquer du 1 en éliminant toute la spécificité de chacun, puisqu'à la limite, comme on nous l'apprend, les êtres humains n'avaient pas d'importance dans la construction de la tour. Un marteau avait plus de valeur qu'un être humain. Si un être humain tombait, il mourait, c'était pas grave, mais si on abîmait un outil, c'était gravissime. Et ils veulent construire, fabriquer du 1 pour aller contester le 1. Et là, c'est la Nouchem. On va remplacer Hachem par notre nom à nous. Donc, c'est des façons différentes de prendre le pouvoir, dire le palais est à nous. Dans le Machal, on ne voit pas de différence. Simplement, les hommes qui parlent disent le palais est à nous, il n'est pas au roi. Bon. Alors maintenant, dire le palais est à nous, il n'est pas au roi, dans l'histoire humaine, si on peut parler comme ça, c'était plus subtil que ça. Bon, il y a une contestation à trois niveaux. Au niveau déluge, au niveau génération d'Enoch et au niveau de la tour de Babel. Et ces trois façons, si vous voulez, de nier, au lieu de dire la louange d'Hachem, c'est de nier Hachem. On nie l'ordre qu'il a mis dans le monde, il n'y a pas de loi. Ensuite, on nie le fait que Hachem est au-dessus du monde, en fait. Donc, il n'y a pas lieu de lui donner des louanges. Il est partout. C'est un panthéisme complet, quoi. Et puis après, non, on a compris que, effectivement, l'important, c'est fabriquer du 1. Ça ne marche pas si c'est complètement diffusé, enfin, diffus partout. Il faut fabriquer du 1 pour contester le 1. Mais c'est le peuple qui dit, c'est nous, nous sommes la divinité. C'est-à-dire, ils se prennent, c'est toujours se prendre pour Hachem, si vous voulez, à plusieurs niveaux. C'est donc toujours un problème d'orgueil, ultimement. C'est un orgueil qui s'exprime de toutes sortes de façons. Alors, dans le Machal, le roi dit « j'en veux plus, je ne veux pas de ces hommes, ces hommes qui parlent, je les remplace, je reviens à la situation antérieure des sourds-muets. » C'est-à-dire finalement, sourds-muets, c'est contester d'une certaine manière la spécificité de l'humain. Tout le langage articulé, c'est ça, eux, ils n'ont pas ça. Mais néanmoins, le roi, ils ont quand même compris qu'il fallait honorer le roi. Est-ce qu'ils ne l'ont compris que parce que le roi lui parlait? Et ils ont compris qu'il fallait l'honorer de la manière dont ils pouvaient l'honorer, c'est-à-dire avec des signes, avec les doigts, avec les mouchoirs, etc. C'est un peu la foule. Quand la foule honore le roi, même s'ils crient, même s'ils disent des choses, on n'entend rien du tout, on entend simplement beaucoup de bruit et des mouchoirs, si on peut parler comme ça, et des signes. Que ce soit des applaudissements, c'est la foule. C'est-à-dire, c'est bien une manifestation d'une masse humaine, si vous voulez, qui n'a pas de structure, réellement. Parce que la structure, elle viendrait justement de la parole. Et la structurer, c'est la parole. Quand on ne peut pas structurer, on ne peut pas parler, il n'y a pas de structure. C'est simplement, c'est une masse humaine. Ça ressemble à l'eau, si vous voulez. Alors, c'est vrai que on a tracé, on a mis des limites. On les a mis dans un palais. Cette eau-là, elle est dans un palais. Par eux-mêmes, comme ils communiquent, quelque part, il serait dispersé partout, ça ne donnerait rien du tout. Rien de spécial. On les met en place, on leur met des limites, on les met dans le palais en question. Le palais, c'est intéressant de dire que on les a mis dans le palais, on ne les a pas mis devant le palais. Quand le roi va sortir du palais, ils vont l'acclamer, enfin, pas l'acclamer, puisqu'ils vont, ils vont manifester leur le reconnaissance. Ils sont dans le palais. Bana palterin veoshiv betocha ilmim. Donc, ils sont dans le palais, ils y vivent, ce que l'on voit. Et quand ils se lèvent, alors, c'est intéressant, le texte, il utilise Shoalim bishlomo shel melech. C'est-à-dire, il faut dire ici, pas qu'ils demandent des nouvelles du roi, mais c'est-à-dire ils lui disent bonjour, en fait. Le salut. C'est intéressant parce que le salut en question, il n'est pas d'une seule sorte. Il y a les salutations qui sont faites, remisa par des gestes, be'etzba, ou be'manulin, ou avec les mouchoirs, en fait. Merci. Donc, on voit que cette masse, là, elle est très riche. Il y a ceux qui manifestent avec le misa, ceux qui manifestent avec des mouchoirs, ceux qui manifestent avec les doigts, etc. Ils font des claques des doigts, ils applaudissent. Et donc, ça ressemble à ces eaux. Ce sont Nicolot Maim Rabim Adirim. Et leur dans le Nimshal ici, il exprime la même chose que ce qui est dit donc dans le Mashal. Dans le Mashal, il salue le roi. Il salue le roi de toutes sortes de manières. Et les eaux dans le Nimshal, ces eaux disent quelque chose, mais curieusement, elles ne disent qu'une seule chose. C'est Maim Rabim, Adirim. Il y a beaucoup d'eau. On pourrait s'attendre à ce qu'on mette en avant le fait que il y a des louanges qui sont faites sous forme de, moi, je connais pas vraiment, sous forme de vagues très hautes, toutes sortes de vagues, toutes sortes de bruits de la mer, le bruit de la mer, tous les bruits de la mer. Non, il dit une seule chose. Adir bamarom Hashem. Ils reconnaissent, qu'est-ce qu'il faut reconnaître? Qu'est-ce qu'ils doivent reconnaître? Adir, quelque part, c'est le même mot que Maïm Adirim. Les mots elles-mêmes, les vagues elles-mêmes, l'eau elle-même, et Adir. C'est très. Et c'est avec ça ce qui les caractérise, en fait, ces eaux. C'est ce qu'elles disent d'Hachem. Elles sont Adirim. Et elles disent, elles aussi, elles disent que Hachem est lui-même à dire. Si on considère que, à dire, je ne sais pas comment il faut le traduire, il faut dire splendide, magnifique. Alors, ces eaux étaient elles-mêmes magnifiques, splendides. C'était très, très élevé, très. Et donc, Akadosh Baruch Hu, au début, depuis le début, il y avait des louanges d'Hachem qui sont données par l'eau. Parce qu'au début, il n'y a rien d'autre que de l'eau. Minamaim. C'est c'est Maim Rabim et Adirim, elles donnent des colottes. Ce sont des voix, des bruits. Et qu'est-ce qu'elles disent? Eh bien, elles disent ça. Elles disent « Adir Bamarom Hachem ». La splendeur, ils ne la mettent pas. Ils reconnaissent que c'est Bamarom. C'est en haut, au-dessus d'eux. C'est fondamental dans la louange de reconnaître, disons, on va le dire comme ça, de reconnaître la transcendance, finalement. Reconnaître que c'est Bamarom. Elles, les eaux d'en bas, disent que, elles reconnaissent c'est étonnant parce que elles sont des eaux d'en bas. Et ce qu'elles avaient dit au départ, nous, on veut être proche d'Hachem. Mais dans la louange, justement, il faut, la louange d'Hachem, elle doit contenir la hauteur d'Hachem, en fait. Le Bamarom. Ça, elles comprennent. Si vous voulez, c'est comme si les eaux d'en haut, elles sont en haut, elles sont dans le monde d'en haut. Donc, c'est pour ça que dans les eaux d'en haut, ça correspond au Malachim d'en haut, ils ne peuvent pas dire la Kdusha tant qu'on ne l'a pas dit d'en bas, d'abord. Mais la Kdusha d'en bas, elle est le fait de reconnaître la Kedusha d'en bas, c'est de reconnaître la hauteur. On apprécie plus la hauteur si on est en bas que si on est en haut. Si on est en haut, alors bon, c'est toujours au-dessus, mais c'est moins, le dénivelé n'est pas le même, quoi. Et en plus, les eaux d'en bas, c'est pas seulement que c'est plus haut, mais c'est ailleurs. C'est un ailleurs, puisque c'est pas dans leur monde. Elles disent une louange, Bamarom. Rome, c'est au-dessus. C'est cette notion d'élévation. Alors quand Hachem dit, si ces eaux qui n'ont pas de bouche, donc elles ne peuvent pas. Velo Amira Velo Dibourg. C'est intéressant ces trois caractéristiques. L'eau n'a pas de bouche, elle n'a pas d'Amira et pas de Dibourg. C'est-à-dire que dans la louange d'Hachem, bien sûr, il faut pouvoir parler. Les êtres humains, ils ont cet avantage d'avoir une bouche. Et surtout, c'est intéressant qu'on peut dire la louange d'Hachem avec une parole dure, avec un dibour, et aussi avec une amira. Probablement, c'est pas que la parole est dure ou douce. C'est reconnaître Hachem, si on peut parler comme ça, dans le Vaïdaber comme dans le Vaïomer. En d'autres termes, la différence entre Vaïdaber et Vaïomer, c'est la différence qu'il y a entre la création et la Sorata Dibrot. La création, c'est de l'ordre des Mahamarim, de Vaïomer. Et la Sorata Dibrot, c'est le Dibour. Donc, quelque part, dire la louange d'Hachem avec Dibour et Amira, je pense que c'est plutôt de dire que reconnaître, dire la louange d'Hachem en tant que créateur et dire la louange d'Hachem en tant que celui qui nous a sortis de l'Égypte, en tant que, à la fois comme père et comme roi. Celui qui nous donne des mitzvot, qui nous parle, c'est un dibour, des paroles qui sont des paroles dures parce que c'est des paroles que, bon, c'est sûr que les paroles, la Amira de Asara Mamarot, la création du monde, à part Adam Arishon, personne ne l'a entendu. Ces paroles-là, c'est le monde qui l'a entendu. Il n'y a pas d'être humain qui l'a entendu. Je ne sais pas si lui, il a entendu Adam Arishon. Il a été créé par ça. Est-ce que ça s'appelle entendu? Hachem lui a parlé après. Mais au moment de la création, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le Dibour, dans ce que les Bnei Israël ont entendu, cette parole était tellement puissante, tellement énorme qu'ils en sont morts. Ils meurent quand ils entendent les deux premières, enfin les deux seules paroles qu'ils ont entendues directement d'Hachem, ils en meurent. Ils vont ressusciter, mais cette parole-là, elle est pas, on ne peut pas l'entendre. À part Moshe Rabbeinu, personne ne peut l'entendre sans mourir, visiblement. Dire la louange d'Hachem, c'est essentiellement ce qu'on voit, c'est cette louange qu'Hachem regrette quand, parce qu'il ne la trouve pas chez les hommes, c'est ce Adir Bamarom. Cette reconnaissance de ce qu'Hachem est splendide, magnifique, mais Bamarom. Et qu'il domine complètement les choses. Et c'est ce que ne reconnaissent pas, ne veulent pas reconnaître les trois humanités donc, qui sont détruites. Noam Maboul qui ne veut pas reconnaître Hachem comme roi, comme législateur, comme quelqu'un qui donne des ordres, qui a mis un ordre dans le monde. Ensuite, ils disent peut-être que non, il a. Ce sont les choses elles-mêmes qui sont habitées en quelque sorte, qui sont leur propre Dieu. Un Dieu qui est partout, il est. Et donc il est immanent complètement. Et les troisièmes disent il existe, il est bien haut, mais nous, on peut le remplacer. Ceux qui font vraiment la même chose que ce qui est dit dans le Machal, qui disent le palais est à nous, il n'est pas au roi, c'est vraiment la tour de Babel. Eux, ils disent non, c'est un palais, on va prendre le palais. Le palais qu'il a construit, on va le prendre. La génération de la tour de Babel, ils disent à Hachem, tu vas continuer de donner l'énergie que tu donnes dans le monde. Mais ta loi, ça ne nous intéresse pas. Mais le palais que tu as construit, tu vas continuer de l'entretenir. Nous, on ne peut pas faire ça. Par contre, c'est nous qui allons occuper le palais. Nous serons le roi. Et tu seras à notre service, en fait. Tu vas continuer, bien sûr, de faire fonctionner le monde. Ils ne pensent pas qu'ils vont faire fonctionner le monde tout seul. Ils pensent que Hachem est là pour produire le monde, si on peut parler comme ça, et eux pour l'occuper et le diriger et en faire ce qu'ils veulent. C'est ça, le palais est à nous. Ils n'ont pas détruit, on ne parle pas des gens qui détruisent le palais. On n'est pas là, ce n'est pas la destruction du palais. C'est la mainmise sur le palais. Le Midrash avait commencé par voir dans Kavu Amaim la notion de cave. C'est-à-dire la notion de ligne. D'ailleurs, le Midrash avait dit il avait commencé par un pasouk qui dit que c'est un pasouk de Tehilim qui dit Min garatra inusun les eaux. Elles vont être complètement effrayées par ton grondement, par le grondement d'Hachem. Il colle. Les eaux, elles sont effrayées. Et Kavu Amaim, c'est, on va l'expliquer d'abord en disant que les eaux sont prises d'effroi, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que comment est-ce que ces eaux qui occupent tout le monde entier, comment tout à coup elles vont se concentrer et ne rester que dans un endroit bien précis. Du coup, elles vont être seulement dans les océans. Alors c'est ça, c'est par peur. Elles vont fuir. Le grondement d'Hachem va les faire fuir et c'est ça qui va dégager. Donc la ligne, la limite, le cave qui va limiter les eaux, il est produit par le grondement d'Hachem. Donc quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas la parole divine, en fait. Ce n'est pas un vaïomer ni un vaïdaber. C'est une gahara. Kadosh Baruch Hu se fâche quasiment. C'est-à-dire, les eaux obéissent. Elles restent dans les limites qui leur sont assignées. C'est pour ça que, au début, ce Rabbi Abba Bar Kahana, il dit que il faut non, pardon, c'est pas lui, c'est Rabrechia, je crois. Oui, c'est Rabrechia, au nom de Rabbi Abba Barami, qui dit que il faut faire Yaseh Midah Lamaim, donc. Et comment? Comment? Ben, exactement comme quand Hachem a dit Ika vinakte al Yerushalayim. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a dit, après la destruction du Bet HaMikdash, après la destruction d'Yerushalayim, après que Yerushalayim ait été, comme on a vu, complètement labouré, Hachem dit il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir, c'est Zecharia qui dit, Hachem dit, Yerushalayim sera reconstruite. On va recommencer à tracer les limites de Yerushalayim sur un terrain complètement plat. Sur le deuxième, sur la destruction de Yerushalayim au moment du deuxième Beth Amikdash, il y a des ruines. Les Chazal disent que quand on crée un couple, on reconstruit les ruines d'Yerushalayim. Donc il y a une notion de ruine d'Yerushalayim. Après la destruction du premier Beth Amigdash, il n'y a pas de ruine. Ça a été labouré complètement. Possible que si on avait creusé, on aurait peut-être trouvé, mais en tout cas, en surface, il n'y a absolument aucune trace. Il n'y a rien du tout. On ne sait plus. Il n'y a plus du tout. On n'a pas, quand ils vont vouloir reconstruire et ils vont se demander où est-ce qu'on peut trouver une indication quant à la localisation du Mizbeach, il n'y a rien, il n'y a rien, rien du tout. Jusqu'à ce qu'ils trouvent la fameuse urne, vous vous souvenez, l'urne dans laquelle il y a les, sur laquelle c'est marqué que c'est les cendres de Yitzhak Avinu. Il n'y a pas de cendre, hein, bien sûr. Donc, on a besoin de quelque chose qui n'est pas un muret. On n'a pas, c'est pas qu'il y a des traces sur le sol qui nous indiqueraient ici était le Mizbeach. Il n'y a rien. Mais Hachem a promis, par le Navi, il a promis qu'on allait reconstruire Yerushalayim. Alors le fil qui va permettre de tracer, qu'on va tracer avec au cordeau, littéralement. Au cordeau, on va tracer Yerushalayim et on va construire Yerushalayim selon ce tracé-là. C'est la notion d'espoir que Zecharia donne. Et c'est intéressant parce que ce passage qu'il est ramené pour dire que comment est-ce que les eaux vont obéir, on va leur imposer une limite, on va leur imposer un cave. Et il faut entendre ce cave qu'on va imposer aux eaux, à l'eau, exactement comme le cave avec lequel on va construire Yerushalayim. Le cave avec lequel on va construire Yerushalayim, donc c'est un tracé à partir duquel les choses vont se construire. La limite des eaux, c'est ce cave, mais c'est pas... C'est grâce à cette limitation des eaux qu'on va pouvoir construire sur la terre. La terre sèche, elle est la résultante du retrait des eaux, bien sûr. Et donc, de la même manière qu'on peut construire à partir de rien du tout, si vous parlez comme ça. On peut construire Yerushalayim, il suffit de tracer. Eh bien, là aussi, il faut tracer. Et comment se fait la trace qui va imposer à l'eau une limite, ça c'est le grondement d'Hachem. C'est-à-dire que quand Hachem, c'est étonnant, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, Elohim a dit, il a dit, c'est un ordre. Pourquoi est-ce qu'il faut dire que c'est Mingaratra. C'est ça, l'ordre d'Hachem. Ikavu, ça a été dit de façon tellement puissante, en fait, que c'est comme un grondement, comme une voix qui fait peur aux eaux, elles se retirent, en fait. Elles prennent la place qu'on. Hachem veut qu'elle prenne. Ce n'est pas en dehors de la parole. Ce n'est pas qu'on a ajouté, on a l'impression. Je crois que c'est Ikavu, le mot Ikavu, comme il veut dire Kav, dans Ikavu il y a Kav, et le Kav il faut l'entendre comme c'est ce qui va permettre de construire ses limites. Donc en fait, il faut entendre que dans l'ordre d'Hachem, il y a fabriqué. Ce cave, fabriquer cette limite qui va déterminer la terre ferme, la terre sèche puis ferme, sur laquelle on va pouvoir construire le monde, en fait. Et comme dans ce passouk de Zecharia, il y a une notion d'espoir. Lui parle que de cave. Il y a quand même une notion d'espoir, puisqu'il vient dire que bien que Yerushalayim ait été détruite et labourée et tout, il dit, mais Ikavuli, c'est-à-dire on peut me faire confiance en quelque sorte. On peut espérer pour moi. Ikavuli Amaim, c'est-à-dire les eaux, elles peuvent avoir confiance en moi. Mashani Atid la Asod Bahem. Elles peuvent m'espérer ce que je vais faire avec ces eaux. On avait déjà vu en haut que le fait que ces eaux vont servir à la destruction, ça a empêché qu'on dise Tov sur la création de ces eaux. Pas sur la création, mais sur la structuration des eaux avec la séparation, avec cette espèce d'étendue, en fait. Et comme les eaux vont servir à punir ces trois générations-là, alors on peut pas dire Tov. Mais ici, Hachem dit, Ikavuli, Amaim, Mashé, Aniatid, La Sod Bahem. C'est-à-dire qu'elles peuvent m'espérer, elles peuvent avoir confiance en moi. Je vais amener par elles, je vais amener le déluge. Comment c'est quoi cet espoir? Incompréhensible, l'espoir. L'espoir en question, c'est que la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, cette séparation, elle ne va plus séparer. Le déluge, il va annuler la séparation. Le Geshem, la pluie qui vient d'en haut, elle va passer outre la séparation. Et donc ces eaux vont se réunir, les eaux d'en bas, elles vont se retrouver avec les eaux d'en haut. Donc la séparation, elle n'existera pas. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui n'existera pas? Ce qui n'existera pas, ce n'est pas le fait que l'eau elle va tomber d'en haut vers le bas. C'est que les eaux d'en bas peuvent m'attendre, elles peuvent m'espérer. Parce que, au fond, il va y avoir avec le déluge, ce qui dans les eaux d'en bas n'était pas satisfaisant, dans le monde d'en bas, c'est pas satisfaisant, ça va être effacé. Donc, quelque part, les eaux d'en bas vont se retrouver proches d'Hachem. Les eaux d'en bas vont se retrouver proches d'Hachem parce que, justement, si vous voulez, Il y a ce fameux Midrash que je crois que j'ai rapporté il n'y a pas si longtemps. On a vu que Akadosh Baruch Hu demande, c'est-à-dire on se demande, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu préfère les actes des Rechaïm ou ceux des Tzadikim? Vous vous souvenez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu pourrait préférer les actes des Rechaïm? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, vu du point de vue d'Hachem, si on peut parler comme ça, il y a deux façons pour Hachem de se manifester dans le monde. Il est manifeste dans le monde dans la mesure, manifesté dans le monde dans la mesure où les hommes lui obéissent. Mais il est aussi manifesté dans le monde par le fait que quand les hommes ne lui obéissent pas, ils sont sanctionnés. Et donc, on pourrait dire, de toute manière, dans les deux cas, Hachem apparaît comme le maître du monde. Ou bien parce que on fait ce qu'il dit, ou bien parce que quand on ne fait pas ce qu'il dit, on est sanctionné. Et donc, c'est juste parce que Hachem dit « Choisis le bien », on sait qu'Hachem préfère la lumière, il préfère le bien. Mais autrement, du point de vue d'Hachem, on pourrait dire, peu importe, de toute façon, la présence d'Hachem sera visible. Et donc, quand HaKadosh Baruch Hu annonce que les eaux, elles peuvent avoir confiance. Elles peuvent, oui, l'espérer. Parce que Shani Atid la Sot Bahem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va faire avec elle. Ça veut dire quoi? Le déluge, c'est les eaux d'en bas, c'est pas les eaux d'en haut. Sinon, c'est pas Bahem. Ça veut dire que, y compris le Geshem qui tombe, à la Haaretz Arba'im Yom V'Arba'im Laila. D'accord. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser de tout au long de ce Midrash, d'accord, les eaux d'en bas peuvent m'attendre, elles vont servir. Elles vont être à mon service parce que c'est avec elles que je vais punir les trois générations là. Ça veut dire que le déluge n'est pas quelque chose qui vient d'en haut. Enfin, ça vient bien d'en haut, mais pas des eaux d'en haut. Parce que sinon, c'est pas marqué. Sinon, on ne comprend pas le texte qui dit Amar HaKadosh Baruch Hu, Ikavu li amayim, mashe ani atid la'asot bahem. Et machal. Donc finalement, le fait que Hachem se manifeste, quelque part, c'est aussi dès le moment où HaKadosh Baruch Hu se manifeste, y compris pour punir. Vu du côté de HaKadosh Baruch Hu, ça revient au même. C'est-à-dire que, comme on dit dans la Haggadah aussi, Od Yado Netuya, sa main est encore étendue sur nous pour nous punir. Ce qui serait terrible, c'est l'indifférence. Si Hachem s'occupe encore de nous punir, c'est une grande chose. Il s'occupe de nous. Il rétablit effectivement l'ordre dans le monde, mais il s'occupe de nous. Donc là, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Disons à la fin, en tout cas, quand on revient, comme on regarde la fin, on a l'impression que c'est les eaux d'en haut, là, à Geshem, mais à Geshem, ce n'est pas les eaux d'en haut. Yachem c'est Bahem. C'est-à-dire que ces eaux-là elles-mêmes, les eaux d'en bas, ont servi à Hachem. Elles vont servir, on a dit, elles vont servir à Hachem parce qu'elles vont s'ouvrir et permettre au Bnei Israël de sortir d'Égypte. Mais bien avant, elles ont servi à Hachem pour dire que finalement, les eaux qui vont me servir vraiment pour me faire reconnaître, etc., c'est les eaux d'en bas. Le moyen par lequel Akadosh Baruch Hu reprend le pouvoir, comme le roi qui reprend le pouvoir dans son palais, c'est le déluge, enfin les trois, le tsunami, le déluge et la tour de Babel. C'est tout ça, ça se passe dans les eaux d'en bas, avec les eaux d'en bas. Les Kavuli, les eaux peuvent m'espérer. Donc, dans Ikavu Amaim, on a pris d'abord le Kav, et après la Tikva, en quelque sorte, l'espoir. C'est-à-dire que quand on regarde le pasouk qui dit Vayomer Elokim, Ikavu Amaim, ça veut dire que ces eaux qui sont les eaux d'en bas, elles vont obéir à Hachem et vont permettre, sortie d'Égypte, mais auparavant, elles vont permettre à la terre d'émerger. Elles vont se retirer pour permettre que la terre sèche et qu'on puisse construire sur cette terre, vivre sur cette terre. On n'est pas des amphibies, là. Et ensuite, c'est la manifestation de la puissance, de la présence d'Hachem dans le monde, elle va se faire avec ces eaux-là. De la même manière que Zecharia annonce que même si on peut croire que Hachem a été défait par la destruction de sa résidence, en quelque sorte, il n'en est rien. Finalement, Akadosh Baruch Hu va, finalement, il va permettre, il va faire en sorte que Yerushalayim puisse être reconstruite complètement, même à partir de rien du tout, quelque part. Et qu'on n'ait plus de traces. Il y a une reconstruction de Yerushalayim. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette première partie, ce premier paragraphe sur les eaux d'en bas, sur Ikavu Amaim, sur le troisième jour, le début du troisième jour.